Vous êtes sur RTL.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 21 juillet, cette tragédie sur l'autoroute A7 dans la Drôme. 5 enfants d'une même famille sont morts, 3 adultes et un autre enfant sont grièvement brûlés. Le bilan pourrait même s'alourdir. Un monospace a pris feu avant de quitter la route, de faire plusieurs tonneaux et d'exploser. L'état du véhicule semble être en cause. Anne Lavaux de la prévention routière nous rejoindra. Un drame évité. Le vigile d'une discothèque au Blanc-Mesnil a réussi à neutraliser un homme qui menaçait des passants avec un pistolet mitrailleur. Vous l'entendrez témoigner de son sang-froid. Plus de souplesse à l'hôpital, Olivier Véran veut créer 4000 lits à la demande, c'est l'une des conclusions du Ségur de la Santé. Une aide de 50 euros par personne pour aider les familles les plus modestes à s'acheter des masques, c'est ce que demande l'association de consommateurs CLCV. Le gouvernement y réfléchit. Le plan Marshall européen pour la relance, il a finalement été adopté à Bruxelles par les 27. La France va bénéficier de 40 milliards d'euros de subventions. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
La chaleur tourne parfois à l'orage.
Oui, c'est vrai. Beaucoup de soleil encore en ce moment sur la France, même s'il y a quelques nuages sur le Gard. Il y en a un peu déjà sur les Savoies. Effectivement, tout cela annonce un risque orageux un peu plus marqué cet après-midi sur les Pyrénées, le Massif central, la région Rhône-Alpes. Ça pourra déborder en plaine du côté de la vallée du Rhône. Mais dans toutes les autres régions, et notamment dans la moitié nord, ça sera soleil toute la journée. Soleil également près de la Méditerranée, même si on a ces quelques nuages donc du côté du Languedoc. Et puis côté température, ça reste chaud. Hein, 23 à 26 degrés, pas moins près de la Manche. 27 à 31 degrés dans toutes les autres régions et même parfois jusqu'à 35-36 degrés de la vallée de la Garonne à la vallée du Rhône avant les orages.
La question du jour sur RTL.fr. Vous sentez-vous en sécurité sur la route? La réponse est non, non à 63%. Il y a 30% de oui. On attend évidemment vos témoignages au 3210 sur Facebook et Twitter. Bonjour Anaïs Bouton.
Bonjour Estelle. Et on en reparlera évidemment après le drame de l'A7. On va parler de la route, de la sécurité routière. Dans les auditeurs, on a la parole. Vous sentez-vous donc en sécurité? Que pensez-vous du 80 km/h? 349 vies épargnées. C'est donc quand même peut-être efficace. On fait avec vous un point sur la route. Appelez-nous au 3210. Respect de la présomption d'innocence, c'est ce que plaident 200 élus des Hauts-de-France dans une pétition de soutien à Gérald Darmanin. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous choque? Venez en discuter sur RTL au 3210. Et puis Christelle, un peu de légèreté, puisque comme l'a dit le philosophe, sans la musique, la vie serait une erreur. Venez nous fredonner vos tubes d'été. On vous attend sur RTL au 3210. A tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, le courage d'un homme qui a sans doute permis d'éviter un carnage. C'était dimanche matin au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, près d'une église où un homme en treillis menaçait des passants avec un sabre et un pistolet mitrailleur au cri d'Allahu Akbar. Un vigile de discothèque l'a neutralisé en le percutant dans le dos, Vincent Serrano. Et vous venez de le rencontrer?
Oui, et c'est en voiture que Nino vient à ma rencontre, le pare-choc avant toujours gondolé par des coups de sabre. Dimanche matin, 7h, il ferme les portes de la salle des fêtes dont il est le vigile. Un homme surgit d'un buisson, court vers lui. Nino esquive un coup de sabre. Il monte dans son véhicule, mais l'individu continue de frapper fort avant de faire dos à Nino pour courir en direction de l'église d'en face.
Ah, je me suis dit, le mec, il va aller faire un attentat. Il est habillé tout en tenue militaire, avec un masque sur sa tête, un fusil d'assaut où il y a 3000 personnes qui vont à l'église. Et de là, ça a été très vite. J'ai vu 50 films dans ma tête. Je me suis vu mort 10 fois déjà. Et après, je me suis dit, le mec, il va tuer des gens.
Et très vite, Nino décide d'agir.
Ce que j'ai fait demi-tour avec ma voiture. Je suis arrivé derrière lui, je l'ai poussé. Il s'est relevé, il a voulu se tourner vers moi, toujours la mitraillette dans la main. Et de là, je l'ai repoussé, il est retombé. Je suis descendu, il était par terre, j'ai mis un coup dans sa mitraillette. En plus, quand les policiers ont récupéré la mitraillette, elle était vraiment enclenchée.
Et s'il refuse d'être considéré comme un héros, Nino reconnaît qu'il a sans doute évité, dit-il, un carnage. L'assaillant a lui été placé en garde à vue et fera rapidement l'objet d'un examen psychiatrique.
Le sang-froid de Nino raconté par Vincent Serrano. Plusieurs drames de la route occupent l'actualité aujourd'hui. Une enfant de 6 ans est décédée hier alors qu'elle traversait un passage piéton avec sa maman à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, percutée par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. Sous la violence du choc, le corps de l'enfant a été projeté à 13 mètres. La police tente de retrouver le chauffard. Et puis, il y a toute cette famille décimée à l'autre bout de la France, sur l'autoroute A7 dans la Drôme, du côté d'Albon. 5 enfants de 3 à 14 ans ont été tués. 3 adultes et un autre enfant de 7 ans sont dans un état extrêmement grave. Le monospace dans lequel ils circulaient a pris feu avant de quitter la route et de faire plusieurs tonneaux. Peggy Liaudenot, c'est bien la voiture qui semble être en cause ce matin.
Oui, dès cette nuit, le procureur parlait visiblement d'un problème technique sur cette voiture, ce Scénic 7 places. Le conducteur lui-même a parlé juste après l'accident de défaillance au niveau de ses freins. Sur les images de vidéosurveillance, on voit très clairement la voiture s'embraser en quelques secondes. Aucun autre véhicule n'est d'ailleurs impliqué dans l'accident. Les experts ont récupéré la voiture vers 3h30 ce matin pour les premières investigations.
Peggy, vous êtes à Vénissieux, d'où venait cette famille. Évidemment, c'est un choc terrible.
Oui, c'est un véritable choc ici. Tous ont du mal à imaginer qu'ils connaissaient peut-être l'une des victimes.
C'est triste de voir une famille, presque une famille entière partir comme ça. Écoutez, c'est malheureux. Parce que là, moi, je suis encore choqué. Je viens de l'apprendre, je suis encore choqué.
Je souhaitais de tout cœur que ce ne soit pas des gens de Vénissieux, parce qu'on connaît beaucoup de monde et si ça se trouve, on les connaît. Là, c'est encore une tragédie sur Vénissieux. On en a eu quelques-unes cet été déjà.
La maire de la ville, Michèle Picard, appelle, elle, à la solidarité.
Beaucoup d'émotions, de solidarité, de soutien envers les proches. 5 enfants qui perdent la vie, 4 personnes en urgence absolue. Et c'est un drame.
Elle a mis en place dès ce matin un cahier de doléances au sein de la mairie pour apporter du soutien à cette famille endeuillée.
Bonjour Anne Lavaux.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes déléguée générale de la prévention routière. Ce drame, évidemment, au cœur de l'été, nous a tous choqués. On n'en connaît pas encore les raisons. Mais quels enseignements en tirez-vous ?
Alors tout d'abord, notre association s'associe bien sûr à la douleur des familles de victimes. C'est un drame qui est terrible, qui suscite effectivement beaucoup d'émotions et qui nous permet de rappeler quelques éléments vraiment très simples de la sécurité routière. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire est en rapport direct avec la cause de l'accident, mais néanmoins, il faut avoir en tête qu'il n'y a jamais de petits trajets. De toute évidence, ces personnes sont décédées à proximité de leur domicile. Et donc peut-être que ils se sont dit, ben voilà, on a un petit trajet à faire, et ben c'est pas grave, on met tous les enfants dans la voiture.
Oui, c'est pour ça qu'on et monte peu importe. Dans une voiture qui est prévue
exactement.
Pour 7 personnes.
Oui. Et donc, il faut rappeler sans cesse que c'est un siège par personne et tout le monde est attaché et les enfants sont retenus dans des sièges auto adaptés à leur morphologie. C'est très important. Je ne sais pas si la cause directe de leur mortalité est liée au fait qu'ils n'étaient pas attachés ou s'ils l'étaient attachés. Mais c'est vrai qu'un drame comme celui-là et le nombre de personnes dans un monospace pour 6 ou 7 places nous invite à cette réflexion-là.
Puis il y a l'état du véhicule qui semble être largement en cause.
Alors l'état du véhicule, là, il faut peut-être effectivement attendre d'avoir un peu plus d'expertise, mais par rapport à justement l'occupation de l'habitacle voiture, vous savez, on est tous pareils. Parfois, on se dit mais c'est un petit trajet. Et puis l'été, par exemple, on revient de la plage où on a été se promener, les enfants sont fatigués, alors on en met 4-5 à l'arrière de la voiture avec les bouées, les maillots, etc. Et on se dit c'est un tout petit trajet, donc c'est pas grave s'ils sont pas attachés. Mais en fait, en voiture, il n'y a jamais de petit trajet. Un accident peut très bien survenir à 500 mètres de votre domicile. Et quelle que soit la distance du trajet, il faut considérer que chacun d'entre nous doit être en sécurité, qu'on fasse 500 mètres ou qu'on fasse 500 kilomètres.
Une dernière question, Anne Lavaux. Ce drame occulte aussi un premier bilan extrêmement intéressant du passage aux 80 km/h sur les routes sans séparateur central. En 20 mois, 349 vies ont été épargnées. Le gouvernement tablait sur 400 par an. Entre-temps, on s'en souvient, certains départements sont revenus aux 90 km/h. Est-ce que vous le déplorez ?
Alors, en ce qui concerne le bilan, c'est vrai que ce bilan est de toute façon très difficile à réaliser,
oui.
Puisque entre le 1er juillet 2018 et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses en France qu'on ne peut pas tirer un bilan, toutes choses égales par ailleurs, sur ces 2 années. Bien sûr, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de vies épargnées avec cette mesure-là, puisqu'on était autour de 300 à 400 par an. Donc, on est un peu déçus par ce bilan. On sait qu'en termes de sécurité routière, un bilan à 2 ans, c'est pas sérieux, parce que vu la fréquence, qui heureusement est assez faible, des accidents mortels, il faut au moins avoir 5 ans de visibilité pour tirer des conclusions. Nous, ce qui nous apparaît très intéressant, c'est que quand on regarde dans ce bilan l'acceptabilité de la mesure, eh bien, on est passé de 20% qui était tout à fait opposé à la mesure. Aujourd'hui, 20% qui étaient qui sont tout à fait opposés à la mesure. Il y a deux ans, c'était 40% qui étaient opposés à la mesure. Oui. Donc, en fait, l'acceptabilité, elle venait. Et là, ce qui nous met un peu en colère, c'est qu'en réalité, il aurait fallu donner du temps à la mesure pour qu'elle s'installe. Et il n'aurait pas fallu qu'il y ait tous ces revirements qui transfèrent la compétence au président de conseil départementaux au milieu du guet.
Donc, il y a une erreur, il y a une erreur politique de votre part, mais on entend bien que c'est quand même un bilan prometteur. Merci beaucoup. Merci, Anne Lavaux, d'avoir été l'invitée de ce journal. Délégué général de la prévention routière. On fait une pause et dans un instant, des lits à la demande à l'hôpital.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Cette fois, le Ségur de la Santé arrive à sa conclusion. Après la revalorisation des salaires, le ministre de la Santé a levé le voile sur les moyens qu'il compte donner pour réorganiser tout le système de soins. Son objectif, par exemple, c'est de créer 4000 lits à la demande selon les besoins. De quoi s'agit-il exactement, Anaïs Bouissou?
Oui, c'est ce que vient d'annoncer le ministre de la Santé, Olivier Véran. En fait, il n'y aura pas de moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux, pas de blocage des fermetures de lits, contrairement à ce que demandaient certains professionnels de santé. Mais en échange, il y aura donc ce volet de places disponibles, 4000 lits que les hôpitaux pourront solliciter pour quelques mois, pour une urgence, en fonction des besoins. C'est un entre-deux pour tenter de garder le plus de souplesse possible. C'est l'une des 33 mesures retenues par Olivier Véran. Autre annonce aussi très attendue par les directeurs d'hôpitaux, les médecins qui pratiquent de l'intérim, vous savez, des remplacements à prix d'or, parfois 3000 euros bruts par jour. Eux, ils auront une rémunération plafonnée, impossible à dépasser. Cette rémunération sera de 1170 euros bruts et jamais plus. Enfin, le ministre a annoncé toute une batterie d'investissements à coût de milliards d'euros. 2 milliards d'euros par exemple pour rénover un quart des EHPAD, les lieux de vie des personnes âgées. De l'argent aussi pour mieux coordonner les médecins de ville, les professionnels des hôpitaux, pour expérimenter, faire des choix au niveau local, développer le numérique, vous savez, la téléconsultation, les télésoins. Pour revoir carrément, enfin, toute la gestion du budget de la santé en limitant les procédures, la paperasse, et en développant la formation des professionnels de santé.
Anaïs, les négociations sont terminées cette fois ?
Non, justement. Alors déjà, il va falloir mettre en application la myriade des annonces sur les augmentations de salaire annoncées la semaine dernière, sur l'organisation de la santé, ça c'est les annonces d'aujourd'hui. Mais en plus, un nouveau Ségur va s'ouvrir prochainement, un nouveau chantier à partir de la rentrée. Ce sera, écoutez bien, le Ségur de la santé publique, pour réfléchir aux politiques publiques, la prévention, la santé des enfants, des adolescents, ainsi qu'à la santé environnementale. Vaste chantier donc qui, nous promettons, devra aboutir à des conclusions ambitieuses.
Eh bien, Jean Castex adore décidément le dialogue social. Merci Anaïs. Des masques et des tests face au coronavirus, ça marche en Mayenne où le masque est obligatoire depuis vendredi et où les tests se multiplient dans des drives. Il y a déjà de bonnes nouvelles. Sur 100 tests, d'après le ministre de la Santé, il y avait 8 à 9 cas positifs juste après la découverte de foyers de contamination, puis 5. Maintenant, on est tombé à 3. Mais les masques, même avec un prix plafonné à 95 centimes d'euros, plombent le budget. Olivier Guéraud de l'association de consommateurs CLCV demande un geste à l'État pour les familles modestes.
On ne doit pas avoir à choisir entre porter un masque et pouvoir subvenir à des besoins essentiels. Une famille pour 4 personnes, c'est 228 euros par mois en plus. Donc il est absolument injuste pour une situation qui va durer d'imposer ce surcoût à des gens qui sont totalement précaires et qui sont obligés de compter pour tout. Donc nous réclamons une aide de 50 euros par personne et par mois qui correspond à peu près à 2 masques jetables par jour, ce qui est la préconisation. Autrement, on va passer à côté de l'objectif. Les plus précaires ne pourront pas satisfaire à cette obligation. Financièrement, ils n'y arriveront pas.
Olivier Guéraud avec Éric Vanniel. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, promet de regarder attentivement cette question. Un drame épouvantable à Toulon. Un homme a été exécuté par balle au volant de sa voiture la nuit dernière, devant sa compagne et ses enfants. Cette dernière a été blessée. Ça ressemble à un règlement de compte particulièrement sauvage, Étienne Maudu.
Ah oui, le tireur n'a laissé aucune chance à sa victime alors que la voiture est arrêtée. Il s'approche de la portière passager et ouvre le feu à plusieurs reprises avec une arme de poing. Précision glaciale du procureur de la République, le tireur n'était pas à plus de 30 cm du visage de la victime. La compagne, elle, est au volant, elle est touchée à la cuisse et elle-même en réchappe par miracle. Une balle se fiche dans l'appui-tête. Mais le comble, c'est qu'à l'arrière se trouvaient 3 enfants, les 2 fils du couple et un petit-neveu. Ils n'ont pas été blessés, mais on imagine le choc psychologique face à ce déluge de violence. La victime, âgée de 35 ans, était sortie de prison il y a 2 mois après avoir purgé une peine de 4 ans pour une affaire de stupéfiants. L'homme avait-il une dette à payer? Voulait-il reprendre une affaire qui faisait des envieux? Ce sera à la GIRS de répondre à ces questions. La juridiction interrégionale spécialisée a été saisie car selon Bernard Marchal, le procureur de la République de Toulon, le dossier s'apparente à un dossier du grand banditisme sur fond de trafic de stupéfiants.
Étienne Baudu, c'est une journée historique pour l'Union. Se sont félicités cette nuit Emmanuel Macron et Angela Merkel après l'accord sur le plan de relance qui prévoit pour la première fois une solidarité budgétaire chez les 27. Il a fallu lâcher sur la part de subventions, passer de 500 à 390 milliards, le reste étant composé de prêts plus classiques. De quoi financer en partie le plan de relance de la France qui sera présenté le 24 août, Lionel Gendron.
Oui, 40 milliards disponibles tout de suite. Du coup, 40% du plan de relance français est financé. Il est de 100 milliards, je vous le rappelle, pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Nous allons voir les effets rapidement pour l'hôpital ou la rénovation énergétique. Une bonne nouvelle, mais Emmanuel Macron a tout de même rappelé un détail.
C'est un objectif de solidarité et de responsabilité puisqu'il y a un échéancier de remboursement qui est prévu parce qu'il ne s'agit pas que tout cela repose sur les générations futures uniquement.
Oui, car même si c'est une dette commune, il faudra la rembourser d'ici à 2058. Une taxe européenne sur le plastique non recyclé pourrait y contribuer.
Bon, et d'autres pays vont en profiter encore plus que la France.
Oui, l'Italie espère 70 milliards, l'Espagne 60 milliards. Attention, il reste encore un peu de chemin. Une validation du Parlement européen, puis des parlements nationaux. Enfin, il y a des conditions, lutter contre le réchauffement climatique ou respecter l'état de droit. Des efforts sont ainsi demandés à la Pologne et la Hongrie pour la liberté de la presse ou l'indépendance de la justice.
Merci Lionel.